Bonne fin de soirée, bienvenue à l'Enchamp, merci d'être là. Grosse journée dans la Ligue nationale de hockey avec cette date limite des transactions qu'on va passer au ping fin. On va parler de ce que Marc Bergevin a fait et aussi de ce qu'il n'a peut-être pas fait, selon votre opinion. On va répondre à vos questions, on aura notre chronique dans le mille dans le champ et à la fin de l'émission, on reçoit Samuel Piette de l'Impact de Montréal ainsi que notre analyste Olivier Burrett parce qu'il y a un match important en Ligue des champions mercredi. Mais évidemment, c'est le hockey qui prend la place en début d'émission. Danny Dubé, Guillaume Latendresse, Stéphane Fizet, François Gagnon, messieurs, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Vous allez bien?
Oui, bien.
Grosse journée dans la Ligue nationale. Intéressant. Oui, à chaque fois. Chaque année, ça apporte son lot de surprises, son lot de déceptions. Oui. Et j'ai tellement hâte de vous entendre. On va mettre la table avec les manchettes à l'Albi-Légère. Et Danny, à toi les honneurs.
Ben, c'est comme dans l'immobilier. Il y a des vendeurs, des acheteurs, puis ça se termine toujours avec un coup de cœur.
Un coup de cœur.
C'est comme ça. Tu choisis un joueur parce que tu l'aimes. Tu as l'impression qu'il va venir vraiment pallier à un besoin immédiat. Moi, je regardais les transactions pour la plupart, le mouvement de personnel. Bon, c'est sûr, il y a toujours des joueurs, on dit, de réserve, de profondeur, mais vraiment, j'ai trouvé cette année que c'était très ciblé. Je m'attendais à avoir des décisions prises pour certaines choses, puis c'est ce que j'ai trouvé pour les Oilers, pour la Floride, vraiment, on en reparlera, là, mais il y a eu certaines situations là, où ça m'a interpellé, je me suis dit, waouh, vraiment, là, on est allé pour régler des besoins à très, très court terme.
Pour des équipes, effectivement, qui ont des visées à très court terme.
Puis, coup de cœur, là, c'est toujours du court terme.
Oui, toujours.
J'espère que du côté des Oilers, ils ont des bons caméramans parce que...
Ça reste allé rapidement.
Turnover! Avec Catanasio à moins 45, puis Mike Green à moins
20. Ben, il doit 45.
Parce qu'il joue à Détroit.
Oui, mais là, il
s'en... faire plus chaud, là.
Edmonton, c'est là, c'est moins 40 aussi.
Moi, je parle des transactions qu'on a faites. On a changé plusieurs joueurs profondeurs, Cousin, Thompson, tous ces joueurs-là. Il va falloir monter des gars de Ligue américaine ou donner, puis on sait que le Rocket se bat pour une place en série. Et pour moi, même si on parle que les séries éliminatoires, c'est pas toujours important dans la Ligue américaine, ça fait partie du développement du joueur, d'apprendre à jouer dans des séries éliminatoires. Et je trouve que c'est primordial que les Paling, tous les jeunes joueurs, Kotkaniemi qu'on a descendu, même Charles Hudon qui va avoir une autre opportunité un jour dans la Ligue nationale, aient la chance de participer à des séries éliminatoires. Pour moi, ça fait partie du développement que d'avoir des joueurs dans la Ligue américaine qui apprennent c'est quoi jouer dans la
Ligue. Surtout quand ton équipe participe pas aux séries dans la Ligue nationale.
Mais c'est pas fait encore.
Non, c'est pas fait, mais je trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas aidé, justement, cette poussée-là.
Ah, OK, je comprends. Il y a Jake Evans qui s'en vient aussi avec le Canadien. Qui a été rappelé aussi. Stéphane?
Oui, ils se pensent tous gagnants, puis je parle de toutes les organisations de la Ligue nationale. C'est après la journée comme aujourd'hui, tu vas parler à n'importe quel directeur gérant dans la Ligue nationale, bien... Très bonne journée pour moi. Je pense qu'on est gagnant. On est sorti gagnant. On a fait de la meilleure échange ou on n'a pas fait la meilleure échange. Ça peut aller dans tous les côtés, mais tu peux parler avec n'importe qui. Ils se pensent tous gagnants aujourd'hui.
Intéressant. François?
Ben moi, je vais dire qu'il y en a au moins un qui n'est pas gagnant aujourd'hui. C'est Marc Bergevin. Parce que on s'installe aujourd'hui puis on ne sait pas c'est quoi le Canadien. On ne sait pas où le Canadien s'en va. Ma manchette, c'est... Entre deux chaises, ça aurait pu être entre l'arbre et l'écorce. Prenez l'expression.
On a choisi une photo assez appropriée. Et puis, assis entre deux chaises.
Assis entre deux chaises parce qu'on dit on n'a pas voulu toucher au noyau, mais on ne sait pas si ce noyau-là va être capable d'amener le Canadien en série. Il va les avoir manqués 4 fois en 5 ans. On ne veut pas toucher au noyau, mais de ce noyau-là, il y a 5 gars qui sont susceptibles de partir dans 2 ans à titre de joueur autonome, à commencer par un des clients de monsieur ici, Philippe Danault, qui veut bien rester à Montréal, mais comme joueur autonome, si les offres arrivent, là, on a une base de comparaison avec Jean-Gabriel Pageau, qui a signé avec les Islanders. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et là, on nous dit, soyez patients, soyez patients. Le repêchage, ça va être bon. On a eu 21 sélections dans les 2 dernières années. On en rajoute 14. Si je sais compter, ça fait 35. Mais il n'y en a pas encore un dans la Ligue nationale, tu sais, sur une base régulière là-dedans. Il y a Kotkaniemi qui a frappé à la porte. Il y a Paling. Moi, je veux bien être patient. Mais il faut, à un moment donné, qu'on ait des motifs de croire ou de justifier cette patience-là. Et je trouve qu'aujourd'hui... Là-dessus, on a manqué notre coup.
Avant de lancer le débat sur Marc Bergevin, on va aller entendre des extraits de son point de presse aujourd'hui à la suite de cette journée, de la date limite des transactions.
Le fait d'échanger Kovy à un endroit qu'il n'aurait peut-être pas aimé n'était pas dans mes plans non plus. Son choix était d'aller à Washington. Alors, on a travaillé ensemble, puis on a fait une transaction qui est aussi bonne pour l'organisation.
T'as-tu laissé un choix de deuxième ronde ou un choix de première ronde sur la table pour satisfaire Kovalchuk?
Première ronde, non. OK? Puis quand tu dis deuxième ronde, il y a toujours des endroits dans deuxième ronde, il y a des conditions. Alors, pour moi, il n'y avait pas une grosse différence pour prendre le risque. On sait de plus en plus que les agents libres, pas juste à Montréal, à travers la Ligue, c'est vraiment devient de plus en plus thin. Si j'échange un tel joueur, puis je vais acheter un choix de première ronde, mais ce choix-là va être le choix numéro 25. Les chances qu'il performe dans la Ligue nationale sont pareilles que le gars qui peut partir à 41. C'est difficile de mettre ça juste sur le taux, dire c'est juste à cause des repêchages ou c'est juste à cause du développement. C'est tellement... Il y a beaucoup de chances. Quand je te dis un noyau, ça veut pas dire que le noyau est très gros, mais il y a quand même un noyau. Puis ces joueurs-là sont ici encore à Montréal, puis je crois encore en eux. Puis c'est certain qu'ils ont eu des déceptions cette année où ce qu'on est aujourd'hui, mais ça change pas le fait de la direction que l'organisation s'en va.
La dernière phrase est très importante. Ça, on ne change pas la direction dans laquelle l'organisation s'en va. Si vous vous attendiez à des changements drastiques aujourd'hui, que ce soit un Tatar Petrie, Marc Bergevin l'a rappelé, on garde le plan et on s'en va dans cette direction-là.
Bien, moi, il y a un élément tantôt par rapport à ce que on a discuté, c'est que il me semble que quand même, ils ont le droit d'espérer que ça aille mieux avec l'émergence de Nick Suzuki. Parce que lui, il arrive un peu de nulle part. Mm-hmm. Puis c'est lui peut-être qui te fait croire que l'an prochain, si tout le monde est en santé, ta ligne de centre est meilleure, t'as quand même quelques possibilités. Là où ils sont vraiment vulnérables, c'est la profondeur. Mm. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont des blessés, ça retombe. Et ça retombe parce qu'il n'y a pas assez de joueurs qui viennent dans le système. Ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais fondamentalement, moi, je pense qu'ils y croient parce qu'ils voient quand même une lueur d'espoir avec l'émergence très hâtive de Suzuki.
Oui, mais il ne faut pas que tu te laisses, endormir par ces choses-là. La pire chose qui a pu arriver aux Canadiens l'an passé, c'est d'avoir la meilleure saison d'à peu près tout le monde, pas avoir de blessures. Puis là, ils se sont dit, hey, finalement, on est capable de rivaliser avec les clubs qui sont autour de nous autres. Cette année, on l'a vu. Pendant que les Pingouins gagnaient, malgré l'absence de Malkin en début de saison, malgré l'absence de Crosby, tu sais, c'est des gros joueurs, là. Puis ils sont partis, puis il y en a d'autres qui ont remplacé, puis ils ont gagné pareil. Columbus ont gagné malgré, et gagnent encore malgré des blessures. Mm-hmm. Alors ça, là, moi, je veux bien leur donner l'occasion de dire oui, Suzuki change la donne, puis oui, on a besoin de plus de profondeur. Ils ont quand même un trou gros de même à gauche, brigade défensive. Et ce que j'accepte de Marc Bergevin, c'est que c'est pas aujourd'hui que tu vas remplir ces gros trous-là. Non, c'est pendant la saison morte. Mais là, il reste que... Moi, j'aime pas aimer le discours d'aujourd'hui parce que c'est comme nous dire, ben finalement, ça va pas si mal que ça. Hey, réveillez-vous, ça va mal, là.
Moi, je trouve juste que ton noyau de joueurs qu'on a, tu sais, si on pense à Weber, on pense à Subban, à Price, on se retrouve que c'est là le moment. Puis, OK, peut-être c'est pas aujourd'hui, mais cet été, il va falloir prendre une décision sur ces joueurs-là. Puis, au-delà de ça, au-delà de l'âge de ces deux, Price ne gagnera pas de Coupe Stanley à Montréal. On sent, à moins d'un grand virement de situation, dans les trois prochaines années, il va être à son maximum, son prime. Puis en pente descendante. Il va falloir prendre une décision sur ces trois gars-là. Puis j'ai comme trois noyaux. J'ai le groupe de Price, Weber qui sont vieillissants, qui sont vraiment le core, le noyau. Après ça, j'ai Drouin, Domi, que c'est un point d'interrogation. Est-ce qu'ils sont dans le noyau ou est-ce qu'ils sont de l'autre côté à babouner? Puis j'ai l'autre groupe de Petrie, Tatar, Gallagher, tu sais qu'ils vont se présenter. Fait que là, tu as comme trois groupes. Quel que je garde, quel que je suis prêt à disperser.
À qui pour tu aller... donnes l'équipe, c'est ce que tu veux
exactement,
dire.
Exactement. Vers où je m'en vais. Puis je pense que de miser sur Weber et Price serait peut-être une erreur parce que c'est là ton plus grand atout au niveau des transactions.
Ben, moi, ma plus grande crainte, c'est que je trouve que la des fois, tu as une équipe, tu as une organisation, tu dis, c'est facile. Tu regardes, là, comme aujourd'hui encore, je regardais Pittsburgh, ils vont chercher Sherry et ils le ramènent. Ils le ramènent parce qu'ils cadrent Rodriguez. Ils vont chercher des gars qui cadrent avec leur... Mm-hmm. Les joueurs leur ressemblent, ils se ressemblent tous. Ils repêchent les joueurs, c'est 6 pieds, c'est 1 pied et 11, 6 pieds, 190 livres, ils fly, tout le monde patine à 100 000 à l'heure. Ils sont bons avec la rondelle, ils sont intelligents, ils sont combatifs. Donc, ils se ressemblent. Alors, tu vois, il y a un courant, il y a une ligne. Moi, ce qui me dérange avec Canadiens, c'est la défensive. Depuis des années, on dit qu'il n'y a pas de ligne de centre et il n'y a pas de défensive. Dans le sens qu'on n'a pas un vrai noyau là, de défenseurs que tu dis, waouh, là, on a de la stabilité. Et pourtant, la dernière fois que j'ai regardé dans l'histoire du Canadien, quand ils ont eu du succès, ils étaient bons là.
C'est là qu'ils étaient forts.
100% d'accord.
Puis il y a aussi, on va sûrement en parler aussi peut-être tantôt, mais le fait de ne pas avoir un deuxième gardien de but solide. Pourquoi qu'on s'entête à aller chercher un deuxième gardien de but qui a 32, 33, 34 ans? Pourquoi tu ne vas pas chercher un deuxième gardien de but qui va être capable de mettre une pression sur Carey Price tout de suite? C'est pas pour y voler sa job de numéro un. Il volera pas sa job de numéro un. Mais un gardien de but qui est capable de t'y mettre une pression, puis en même temps, t'y donner un break une fois de temps en temps, n'a pas été obligé de garder les buts pendant 65 parties, 67 parties. Fait qu'au lieu de te destiner d'aller chercher un Kincaid qui a 32 ans, je pense, quelque chose de même, là, dans la trentaine, ou l'autre avant Niemi, va en chercher un plus jeune, plus solide, qui va être capable de mettre une certaine pression sur Carey Price. En même temps, tu donnes la chance à Primo de se développer dans la ligne américaine l'an prochain.
C'est ce qu'a dit aujourd'hui Marc Bergevin. Il l'a dit dans son point de presse, que Primo, d'avoir une année peut-être le plus du côté de Laval, parce que pour aller chercher du volume. Mais la prochaine étape, oui, il y a le gardien numéro 2, mais avec le nombre de choix qu'on a emmagasinés, puis Marc Bergevin semble vouloir dire l'an prochain, je veux faire les séries. Donc, est-ce que la quantité de choix au repêchage dans l'entre-saison va servir à tout de suite aller chercher un actif important pour cette équipe-là? Parce que les joueurs autonomes, c'est difficile, il l'a encore répété aujourd'hui, mais d'aller chercher un actif via cette quantité de choix-là aujourd'hui.
Bon, moi, je vais embarquer tout de suite là-dessus. Là. Ça fait partie des choses que j'ai pas aimées non plus aujourd'hui dans la conférence de Marc Bergevin. Quand il dit... Tu sais, un choix tardif de première ronde, tu sais, t'es pas sûr, puis un choix de deuxième ronde, t'es pas sûr. Tu peux pas envoyer ce message-là aux partisans quand ce que tu as fait au cours des dernières années, c'est de miser sur le repêchage. Quand, depuis que tu es arrivé, tu dis la seule manière de bâtir un club, c'est par le biais du repêchage. Depuis que Marc Bergevin est en poste, en 2012, le Canadien a repêché jusqu'à maintenant 60 joueurs. Il y en a 17 sur ces 60-là qui ont joué au moins un match dans la Ligue nationale. Trois seulement qui sont avec le Canadien, qui ont été repêchés. En ce moment, c'est Jake Evans, un choix de septième ronde. C'est Lekkonen, puis c'est Mété qui est blessé. Bon, on les plantera pas pour rien. C'est sûr que Drouin est venu remplacer Sergachev, que Domi est venu remplacer Galchenyuk. Tout ça, je suis bien d'accord. Mais de tous les joueurs qui ont été repêchés par le Canadien depuis 2002, là, il n'y en a pas un qui a atteint le plateau des 70 points. Alors, un choix de première ronde, je te demande pas de me donner un Connor McDavid à tous les ans, là. Mais dans l'eau, si tu veux que tes partisans croient à ton... À tes capacités de bâtir avec le repêchage, ben amène de l'eau au moulin qui a de l'allure. Ben, et ça, si, le Canadien ne l'a pas fait.
Si Marc Bergevin est pris année après année pour faire de la gymnastique, pour garder son équipe à niveau, compétitive, avec des transactions et toutes sortes d'affaires, c'est parce que les joueurs qui arrivent dans son système ne font pas le travail. Ils ne cadrent pas. Des fois, là, c'est pas que le joueur il est pas bon. Il est pas bon chez vous. Fait que, tu sais, tu repêches, il y a des organisations qui repêchent, c'est évident. Tu regardes Boston, là. Boston repêche, il repêche un Bruins de Boston. Pingouin, même affaire. Mm-hmm. Washington, même affaire. Ça, des équipes qui finissent en avant le Canadien, puis ils rentrent plus de joueurs dans le système. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, moi, je ne porte pas de jugement sur les personnes. Moi, je regarde
les résultats.
Les résultats, mais là, si moi, je ne comprends pas, aidez-moi, s'il vous plaît. Là,
parce que l'argument que j'allais dire, c'est combien ces choix-là sont des choix top 5. Mais quand tu regardes les trois équipes que tu viens de nommer, ils repêchent en fin de première ronde pareil.
Gonzo, Kuznetsov, deuxième ronde. Kucherov avec Tampa Bay. Il y en a plein, là.
Oui, puis même, Dani, si tu viens qu'à me dire, puis tu sais, t'es agent de joueur, puis t'essayes de vendre ces joueurs-là au repêchage, même si on est d'accord pour dire que Kucherov, c'est un accident de parcours, s'il avait été convaincu, il aurait été sélectionné bien avant. Bien, OK, mais amène-moi-en, toi aussi, des accidents de parcours. Il y en a eu chez le Canadien. Andrei Markov, un choix de cinquième ronde. Gallagher, c'est quoi? C'est un 4 ou un cinquième ronde aussi. Alors, tu sais, il y a de beaux exemples de temps en temps, mais le message que j'entendais aujourd'hui, c'est qu'on se compare au pire, puis on dit que tout le monde a des erreurs, puis on nivelle par le bas. Attends une seconde, là. Arrête de niveler par le bas, puis vise les meilleurs. Vise ce que Columbus a fait avec ses choix de première ronde et trouve une manière de... convaincre tes partisans que le repêchage, oui, c'est la voie, parce que tu amènes des jeunes, puis ils sont bons.
Pis pour le jeunes, moment, c'est de l'espoir.
On n'a pas de raison de croire au repêchage, parce qu'il n'y en a pas assez eu qui sont venus renflouer le Canadien.
Mais est-ce que c'est un problème qu'on a aussi, si on regarde Galchenyuk, des choix qu'on a faits, on a repêché au besoin. au lieu de repêcher le meilleur joueur disponible. Puis si dans trois ans, bon, il arrive puis il ne cadre pas dans ce qu'on veut comme philosophie ou dans nos besoins, ben, on l'échangera, j'ai pas de problème avec ça. On a repêché un besoin, un joueur de centre qui était peut-être pas le meilleur joueur disponible, mais en ce moment, on avait besoin de ça. Mais je pense qu'il faut arrêter de faire ça. Les meilleures équipes repêchent le meilleur joueur disponible, puis après ça, il s'ajuste dans son positionnement, dans ce qu'il peut apporter à l'équipe. Je pense que c'est là qu'on prend le dessus sur le repêchage au niveau du Canadien. Là.
Moi, je vous amenais aussi sur le fait de procéder à une transaction majeure. Et croyez-vous que Marc Bergevin peut procéder à une transaction majeure en se servant de la quantité de choix aussi qu'il y a?
Bien, ça va prendre un joueur avec tel choix.
C'est ça.
Puis moi, je reste convaincu que Max Domi, c'est un joueur qui est toujours en flottement. Je ne suis pas en train de dire que je veux que ça en aille, mais j'ai l'impression que si on regarde la somme des contrats qu'il va avoir à négocier, l'argent qu'il va avoir de disponible, l'historique... Dans l'historique du Canadien, comment on gère ces affaires-là.
L'attitude.
Je pense que là, il pourrait y avoir un beau paquet, un packaging entre un gars comme lui, choix de repêchage, etc., puis peut-être même un joueur, un espoir pour avoir un défenseur qui est à la hauteur des attentes de l'équipe. Ils ont besoin... Ça leur prend un top à gauche. Là. Ça leur prend un gars qui arrête de nous parler de ceux qui sont là. Oui. Là. C'est pas des joueurs offensifs à gauche.
S'il veut vraiment améliorer son équipe, parce que s'il pense d'aller la saison prochaine avec la même équipe qu'il y a cette année, on va avoir encore les mêmes résultats.
Ouais.
Puis c'est là que ça devient intéressant, justement, au repêchage cette année, avec plusieurs choix comme ça, d'aller chercher un joueur ou peut-être deux joueurs déjà établis dans la Ligue nationale. Tu échanges des choix et tout ça. Au moins là, tu donnes espoir aux partisans d'avoir une meilleure saison et tout ça. Puis tu t'essaies encore au marché des joueurs autonomes. On ne sait jamais. Peut-être qu'il va venir quand en attraper un moment donné.
Parlant de repêchage, on va jeter un coup d'œil au classement dans l'Est parce que là, avec les joueurs qui quittent le Canadien en retour de seulement des choix, que ce soit Thompson, Kovalchuk, vous voyez le Canadien qui se retrouve... Là, on est à 6 points là, des Leafs. Il y a tellement de matchs à disputer pour les équipes qui sont devant le Canadien, que ce soit les Sabres, les Panthers. Marc Bergevin, du bout des lèvres, aujourd'hui, a parlé du fait que des séries sont peut-être encore possibles, mais bon, on s'entend tous là-dessus. Mais je veux vous amener sur un autre dossier, sur Ilya Kovalchuk. On a su aujourd'hui, puis Marc Bergevin l'a dit, qu'il lui a pratiquement fait une faveur en l'envoyant du côté de Washington, qui avait peut-être d'autres offres plus intéressantes, mais la relation, ce qu'il a donné à l'organisation en peu de temps, c'était assez grand pour lui permettre de choisir pratiquement sa destination. Je veux vous entendre là-dessus, sur cette façon de faire, de permettre à Kovalchuk de peut-être aller gagner la Coupe à Washington.
Bon, première des choses, là, Kovalchuk ne méritait pas de faveur après 22 matchs dans l'organisation. Là.
Exact.
Alors, moi, là, puis je vais mettre ma lecture à l'épreuve, puis vous avez le droit de ne pas être d'accord.
C'est
qu'est-ce
sûr.
Que Marc Bergevin dit depuis qu'il est là? C'est dur d'amener des joueurs autonomes à Montréal. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs d'impact qui ont des clauses de non-mouvement et de non-transfert à Montréal. Mmh. Alors là, il a dit, « M'a te rendre service, puis si jamais j'ai besoin de toi pour trouver une manière de pouvoir l'amadouer si jamais le Canadien a besoin de ses services parce qu'il n'a pas réussi à s'améliorer assez, que Kovalchuk pourrait revenir au mois de septembre. » Moi, c'est tout ce que je vois là-dedans. Parce qu'au-delà de ça, ce gars-là, il ne méritait pas d'avoir une faveur après 22 matchs.
Moi, la misère à croire que Kovalchuk va dire « Ah oui, je reviens, c'est sûr, moi je viens, voyons donc. » Ah, il a aimé la ville, il va aimer Washington. Puis s'il gagne une coupe à Washington, il va triper à Washington. Il y a plein de chums russes là-bas. Tu peux pas penser à c'est quoi qui va arriver dans 4 mois. Ça n'existe pas dans le hockey. Tu sais même pas ce qui va arriver demain. Puis tu peux même pas penser à ce qui va arriver demain. Le gars, c'est ben trop compliqué. Jamais un gars, puis jamais, j'espère que jamais Marc Bergevin, c'est... a fait un offre comme ça à un joueur autonome le 1er juillet parce qu'il y a tellement de choses. Il peut avoir un offre au repêchage qui arrive que là, tu n'as plus besoin de Kovalchuk ou la situation de Kovalchuk est complètement différente. Tu peux pas te lier les mains comme ça avec un joueur. Bien. Pour moi, c'est... je suis d'accord avec François à 100%.
Ouais, moi aussi, je pense que, comme François le dit, que c'est un exercice de bon procédé. Tu sais, il l'envoie à une place où il pense aussi qu'ils n'auront pas besoin de lui à la fin de l'année. Là. C'est parce qu'ils n'offront pas une offre de...
Pour ceux qui ont besoin de lui. Ouais.
Non, mais sérieusement, là, tu sais, Washington, là, ben, tu sais, des fois, tu cherches là, l'élément rassembleur. Le gars que tu veux lui donner la chance de gagner une coupe, il y en a quand même plusieurs joueurs russes là, dans l'équipe qui vont jouer pour lui, là, c'est sûr. Là, parce que ça, c'est un élément rassembleur. Moi, je pense que là, il y a quelque chose d'intéressant. Après, ben là, moi, je vois pas Washington lui faire une offre. Alors, c'est sûr que si on a déjà discuté de ça, ben là, lui, dans sa tête, c'est j'ai un choix de repêchage, il s'en va terminer l'année, je lui fais une faveur. Hein, je te fais une faveur. Mm-hmm. Tu as une chance de gagner la Coupe Stanley. Puis toi, en retour, ben, tu me feras une faveur, tu m'écouteras quand ce sera le temps.
Au moins m'écouter.
Ouais. Tu m'écouteras. Ça, j'ai c'est pas
ça.
De problème.
C'est ça. Ça
va pas être rien dit.
Réponds à l'appel quand tu verras Marc.
Non, mais ben, mettons qu'il dit que c'est 3 millions là, ou un truc comme ça pour un an. Moi, je pense qu'il va écouter. Il n'y aura pas beaucoup de monde qui va offrir.
J'irai pas
à 3 millions.
Parce que j'entendais 3-5, des rumeurs.
Ben, rappelez-vous ce que Marc Bergevin a déjà dit dans un point de presse. Si tu veux de la loyauté, achète-toi un chien. Et c'est lui-même qui l'a dit. Alors, on verra le 1er juillet. On va faire une courte pause au retour. C'est la chronique dans le mille, dans le champ. Et je vous rappelle, un peu plus tard, on aura Samuel Piette.
C'est un peu chien, mais bon.
C'est ça. Samuel Piette et Olivier Brett seront avec nous. Donc, dans le mille, dans le champ avec les gars. Au retour de la pause. À tout de suite.
Parfois, lors de la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey, on se retrouve au bon endroit, au bon moment.
RDS vous présente la Minute Belle.
Le 24 février 2015, je suis sur le point de quitter mon hôtel à Saint-Louis pour me rendre à l'entraînement du Canadien lorsque j'apprends que Jiří Sekáč est échangé aux Ducks en retour de Devante Smith-Perley. Je retourne alors à toute vitesse dans le lobby et demande à Dominique Saillant du Canadien de parler à Sekáč. Il me répond qu'il est encore à sa chambre puisqu'il vient tout juste d'apprendre la nouvelle et qu'il va descendre dans quelques instants. Alors je dis à mon caméraman de sortir son équipement à toute vitesse et quelques minutes plus tard, nous sommes seuls dans le lobby lorsque le jeune joueur tchèque arrive, valise à la main, un peu ébranlé par cette transaction. Il nous accorde volontiers une entrevue exclusive avant de quitter vers l'aéroport.
It's my first trade in my life, so it was kind of shocking, but I'm looking forward to it and I'm pretty excited.
Après avoir joué quelques matchs pour Anaheim, Chicago et l'Arizona, Sekáč porte maintenant les couleurs du CSKA de Moscou dans la KHL.
Alors, après les souvenirs de Jiří Sekáč, place à la chronique dans le mille, dans le champ. Allons-y avec la première affirmation, messieurs. Les Hurricanes sont les grands gagnants de la journée. Danny, dans le mille, dans le champ.
Moi, dans le champ.
Dans le champ?
Oui. Moi, je trouve que la Floride a fait toute une transaction en laissant partir Trocheck. Parce que depuis le début de l'année, là, je regarde l'alignement de cette équipe-là, je suis tout ce qu'ils font. Et puis, pendant toute la saison, là, Kenville s'est arraché les cheveux, pas capable d'avoir de profondeur, problème dans sa ligne de centre. Il a sorti Boyle de la retraite. Et là, tout à coup, avec cette transaction-là, il échange un joueur de centre, il en reçoit deux. Il reçoit de l'expérience en série d'après-saison. Mm-hmm. Il est allé chercher Holla, il est allé chercher Walmart. C'est deux joueurs qui vont prendre les responsabilités des trios 2 et 3. Et tout à coup, ça vient de stabiliser son alignement. C'est sûr que c'est peut-être pas la transaction la plus flamboyante, mais je pense que c'est la meilleure transaction.
Mmh. Guillaume?
Moi, j'ai dit dans le champ. Pourquoi? J'ai dit les Sénateurs d'Ottawa sont l'équipe aujourd'hui avec la transaction de Jean-Gabriel Pageau. Un choix de 1, de 2 et de 3 pour Jean-Gabriel. Mmh. Mais c'est
le
surtout... Ben, conditionnel.
Il conditionnel. Est-ce qu'il gagne la coupe?
Ouais. Ben, c'est quand même ça aujourd'hui sur le papier qui est écrit.
Ça, hein? Excuse-moi.
Mais ben, c'est surtout la transaction de Patrick Marleau qui va faire en sorte que. Et la blessure à Eric Carlson avec les Sharks va faire en sorte que les Sharks vont continuer de couler et que le choix présentement qui est.
Les Sharks
va s'en aller. Et voilà. Fait que sont les grands gagnants avec l'échange de Marleau à Pittsburgh.
Bon, ouais. Stéphane,
moi j'ai dit dans le champ, puis moi j'y vais avec les Islanders. Pourquoi? Parce que.
Quand s'écrit Pittsburgh.
Ouais, je sais, mais.
Tu manquais à la
ouais, c'est ça.
Vous avez tous changé en cours de route.
Ça doit être ta cravate qui est trop serrée ou quelque chose. Je lui dis, Islanders, ils ont été chercher Pageau, puis en plus, ils l'ont signé à long terme. Puis mm-hmm. Pageau, je pense qu'il va apporter à cette. Tu sais, c'est une équipe qui est quand même au centre, sont quand même assez solides, mais il va apporter quand même beaucoup à cette organisation-là. C'est un jeune qui est capable de jouer dans les deux sens vraiment. Il est capable, peut-être qu'il ne marquera pas peut-être 25 buts, 30 buts l'an prochain encore ou dans les prochaines années avec New York Islanders. Mais pour qu'est-ce qu'il apporte à une équipe, son leadership, c'est une bonne personne aussi dans un vestiaire. Mm-hmm. Fait que je vais pour les Islanders.
Donc, trois dans le champ, François?
Bien, moi, je vais dans le mille avec... Il y a beaucoup de gagnants aujourd'hui. Mm-hmm, puis je partage l'avis des collègues ici par rapport à... Mais qui est le plus gros gagnant? Moi, j'y vais avec la Caroline parce qu'ils ont réussi à trouver une manière de colmater des brèches associées aux blessures. Mm-hmm. Ils ont perdu Dougie Hamilton. Mm-hmm. Ils ont perdu... C'est qui en fin de semaine qui est tombé? Un autre défenseur, c'est Pesci qui est tombé au combat. On est allé chercher des défenseurs. Oui, Eric Haller, je l'aimais quand ils l'ont acquis comme joueur autonome de Vegas. Il pensait avoir trouvé un gros bonhomme qui allait les aider. Il les a aidés l'an passé. Je pense que Trocheck est meilleur que lui à certains égards. Mais c'est surtout parce que la Caroline avait besoin de renforcer sa défensive qui était amoindrie par les blessures. Et ça, pour moi, c'était un grand coup qu'ils ont réussi.
Je crois que les gardiens ne sont pas blessés à long terme.
Bon, ça, écoute, il n'y a pas de club parfait, là. Mais il y en a des meilleurs.
C'est juste un petit argument de plus.
Mais c'est un très bon argument.
Allons-y.
Ils n'ont pas besoin de gardien de but pour gagner.
C'est vrai.
Un chauffeur de Samboni, puis c'est là.
Allons-y, Rona, parce qu'il y a plusieurs autres informations. Okay. La prochaine, le Lightning a surpayé aujourd'hui notamment l'acquisition de Barkley Goodrow en retour d'un choix de premier tour.
Moi, je suis dans le champ. Dans le champ. Il fallait réussir à trouver une façon de rentrer des joueurs pour qu'ils puissent cadrer dans le plafond salarial
dans
du Lightning. Il
n'y
avait pas tous les joueurs qui pouvaient le faire. Et un choix de première ronde pour le Lightning, c'est comme un choix de deuxième ronde. Fait qu'on a réussi à trouver des joueurs qui cadraient dans le plafond à un moindre prix comme un choix de deuxième ronde.
Stéphane?
Moi, c'est Dan Mill.
Surpayé, oui.
Surpayé. Tu ne donnes pas un choix de première ronde à un joueur. Pour moi, j'associe un choix de première ronde à un joueur établi qui a un certain succès déjà dans la Ligue nationale. Puis, ce n'est pas le cas ici.
OK. François?
Bien, Dan Mill aussi. Puis, tu sais, Guillaume, un choix de première ronde, ça reste un choix de première ronde. Même si
Marc
un...
l'a dit tantôt.
Ouais, mais
choix de première ronde, mais il n'est pas sûr, les gars. Ben, gars hey, ronde... Moi, je me fie à Marc, là. Ouais. Hey, non, mais là.
Hey, c'est nouveau, ça.
C'est écrit où, ça? Ça fait ton affaire.
C'est vrai que le Lightning obtient un gars qui va coûter moins d'un million la saison prochaine. Ça peut devenir important, mais c'est très, très cher payé. Trop cher payé pour un.
Danny?
Hey, moi, ça ne marche pas avec ma feuille, là, parce que moi, je trouve que c'est correct qu'est-ce qu'ils ont fait, parce qu'en plus de ça, ils ont perdu en première ronde l'an passé. Puis eux autres, là, leur profondeur est super importante. Ils avaient besoin d'aller chercher le genre de joueurs qu'ils sont allés chercher, les deux gars qu'ils sont allés chercher. Je pense que c'est vraiment deux joueurs qui vont amener une dimension qui leur a profondément manqué en série l'an passé.
Coleman, je suis d'accord. Goodrow, hein. En tout cas.
Prochaine information. Les Capitals,
les Werrous.
Les Capitals sont les aspirants numéro un à la Coupe Stanley. Stéphane.
Dans le champ, je pense pas que les Capitals sont capables de répéter ça. Je pense, j'adore Boston, j'adore Tampa Bay. Moi, sérieusement, quand on m'a posé la question, j'avais de la misère à répondre entre ces deux organisations. Ça va être un de ces deux-là. Faut que je choisisse une équipe. Fait que toi, Guillaume, t'as pris qui là-dedans? T'as même pas marqué. Je voulais prendre le contraire à toi. Fait que je vais prendre... Ouais, c'est ça. Bon. Ben, je vais prendre Boston.
OK, François?
Ben, moi, je dis dans le champ. Et ma sélection pour la Coupe cette année, c'est Tampa. Puis il n'y avait pas besoin de Goodrow pour se rendre.
Il était prêt.
Danny?
Moi, j'ai choisi Boston parce que les équipes récemment, j'ai eu la chance de voir jouer, là. Puis j'ai trouvé que Washington n'était pas à point du tout. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de manque de cohésion dans leur jeu. Il y avait du lousse, comme on dit, dans le système. Il y avait beaucoup trop d'espace entre les joueurs. C'était permissif. Tandis que Boston, là... Le Canadien, il joue tout à chaque fois, là, la rigueur, le système de jeu, les vétérans, le travail qu'ils font, comment c'est tout fonctionne. On sent que l'entraîneur a bien la poigne et bien la selle. Tout ça fonctionne. Alors, ils ont deux gardiens. Il n'y a pas de... Tu sais, des fois, on dit qu'il n'y a pas de faiblesse, là, mais c'est une équipe, pas beaucoup de faiblesse.
Et choisir. Un chat.
Guillaume.
Pour tous ces arguments. Okay. Je nomme pas d'équipe.
On va aller à une dernière. Jean-Gabriel Pageau est le meilleur joueur échangé aujourd'hui.
Bien, moi, je vais vous surprendre, là. C'est peut-être le meilleur joueur échangé, mais pour moi, c'est peut-être. C'est pas celui-là qui va avoir le plus d'impact.
Intéressant, oui.
Mais je pense que Robin Lehner avec Vegas va avoir beaucoup d'impact. Parce que cette année-là, il y a eu énormément de hauts et de bas dans les performances et du gardien de but. On sait pourquoi, là. Marc-André a été éprouvé cette année. C'est pas une année facile pour lui. Et la charge de travail commence à être lourde. Il vieillit, comme tout le monde. La charge de travail commence à être lourde. Là, avec un gardien de but de qualité, cette équipe-là, d'après moi, va de beaucoup stabiliser son jeu défensif. Puis je pense que c'est une acquisition, encore une fois, qui passe un petit peu sous le radar. Mais moi, je suis convaincu que ça va payer.
J'ai 30 secondes pour vos trois réponses.
OK. Ben moi, on a toutes la même meilleur réponse, joueur échangé et le plus d'impact. Je savais pas que c'était la même chose.
Non, meilleur joueur échangé, Guillaume.
Non, mais j'ai travaillé.
OK, OK. Moi, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Je pense que c'est le meilleur joueur transigé aujourd'hui. Mais l'argument d'Annie est très bon.
Stéphane?
Même chose, hein.
Comme en anglais, same thing.
La preuve, c'est le contrat qu'il a signé. Puis j'ai peur d'une chose par rapport à Leonard. Ça allait pas bien à Chicago parce qu'il n'y a pas eu d'osmose avec Corey Crawford. Est-ce qu'il va être en mesure de créer une complicité avec Marc-André Fleury?
Je pense que c'est plus facile.
Oh, les gardiens.
Je connais deux gars, je pense que c'est plus facile avec Fleury.
Oh, les gardiens.
Sont durs.
Mais s'il y en a un qui a l'air, comme Danny dit, plus facile, peut-être Marc-André Fleury. Ouais. Flower, là. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Mais vous restez là parce qu'au retour, on répond à vos nombreuses questions. À tout de suite. C'est le moment de répondre à vos questions. Vous avez été nombreux à nous écrire aujourd'hui à la suite de cette date limite des transactions. On a sélectionné trois questions. Non. Je ne joue pas avec ça. La première, elle vient de Vincent Couture. Et Danny, elle t'est adressée. Comment Marc Bergevin peut-il bâtir une équipe compétitive à court terme et se sans toucher à son noyau?
Bien, c'est sûr que c'est très difficile, mais je pense qu'à l'intérieur de son noyau, quand tu parles de noyau, il faut absolument que tu réduises ton noyau à, mettons, 5 attaquants. Tu te gardes la place, tu as ta profondeur. Donc, il y a un ou deux joueurs que tu peux laisser partir pour essayer de remodeler ton alignement. Moi, je pense que c'est comme ça avec les choix de repêchage qu'il peut faire. Donc, si ça ne se fait pas pour moi au repêchage, durant la période du repêchage à Montréal, ça veut dire que ça va être très difficile pour lui de le faire par le biais de l'autonomie. Parce que par le biais de l'autonomie, il va avoir des joueurs moyens. Ce ne sont pas les joueurs qui vont avoir de l'impact sur son équipe. Et donc, c'est
Monsieur Couture.
Couture. Alors, moi, je dis à Monsieur Couture qu'il devra sacrifier une pièce maîtresse. Depuis plusieurs semaines déjà, je pense que cette pièce-là, c'est Max Domi. Mm-hmm. Et les enjeux sont nombreux. Salaire, demande, longueur de contrat versus tous les contrats à renégocier avec le Canadien. Et il peut se servir de cette monnaie, plus un choix très haut au repêchage pour aller chercher un défenseur. Et s'il était capable de mettre la main sur un défenseur qui vraiment est un joueur de niveau, là, qui est capable de prendre des minutes et de jouer sur l'avantage numérique, jouer avec Weber, moi, je pense que là, comme dirait l'autre, le Canadien va changer de visage.
Prochaine question, elle vient de Simon Dubuc pour toi, Guillaume. À 6 points de place en série, comment les joueurs se sentent quand ils voient que leur DG ne fait rien pour les aider? Puis c'est le cas du Canadien aujourd'hui.
Je pense que les joueurs connaissent la situation dans laquelle on est présentement. Oui, on veut y croire. Oui, on veut être là. Mais on n'a pas fait de on a échangé Thompson, Cousin. Il y a juste Kovalchuk vraiment qui fait perdre la valeur. Et je pense pas que d'échanger pour aller chercher des choses présentement, les joueurs savaient dans quelle réalité on était. Donc, je pense pas présentement. Je pense qu'on est assez compréhensif de où on est présentement dans le classement et où Marc Bergevin se situe là-dedans.
OK. Félix Desilets demande, et c'est Stéphane.
OK, je pensais que tu l'appelais Félix.
Croyez-vous que le problème principal de Marc Bergevin est de surévaluer son équipe, Stéphane?
Un problème principal, ça dépend toujours. Si Marc croit vraiment que l'an prochain, il va faire les séries avec la même équipe qui n'apporte aucun autre changement, je pense que là, il surévalue son équipe. Mais s'il apporte des changements, justement, s'il va chercher le défenseur gaucher qu'on espère, puis il amène peut-être un ou deux joueurs de plus à l'attaque pour produire, pour aider le premier trio, le deuxième trio, je pense que là, ça devient correct. Mais là, présentement, s'il pense vraiment, avec l'équipe qu'il a présentement, d'avoir du succès l'an prochain, sans faire aucun changement, je pense qu'il surévalue son équipe.
Mais l'évaluer, le problème, identifier le problème d'être c'est difficile à domicile cette année.
Ouais.
C'était ça le gros problème, ce qu'on est d'avoir de la difficulté.
Pour aller jouer au centre du Doton.
Ça, c'est un autre dossier. OK, on fait une courte pause.
Avec un chandail bleu? Avec un chandail bleu?
Non.
Mais l'équipe s'est battue. Et quand ton équipe se bat, et je pense que les gens ont pu ressentir ça. Attention, c'est un match, on ne va pas non plus s'enflammer. Il y a un autre match, ça va être difficile. Il y a toute une saison. Mais je pense qu'à un moment donné, quand tu regardes ton équipe et l'équipe se bat, c'est la moindre des choses. Donc, faire ça encore plus et encore mieux, mieux terminer, mieux défendre, mieux attaquer. Comme je dis bien souvent, il y aura des moments où ça n'arrivera pas. Mais au moins, se battre et avoir l'envie, c'est important.
Alors, c'est un extrait de l'entrevue qui sera diffusée avant ce match important de l'Impact mercredi en huitième de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF contre Deportivo Saprissa. Et on a le plaisir de recevoir ce soir Samuel Piette de l'Impact et notre analyste Olivier Brett. Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'antichambre. On a hâte à ce match mercredi. Vous avez fait bonne impression lors du match aller. Comment va la préparation? Et j'imagine qu'il y a une belle ferveur qui vous anime dans le club, parce qu'il y a un enjeu important aussi mercredi.
Et beaucoup de consignes, là, de ce que je comprends aussi avec ce que Thierry vient de dire. Là, juste quelques ajustements à apporter depuis la semaine passée.
Bien évidemment, on sait à quel point cette compétition-là est importante pour nous, pour la ville. Oui, je me répète, mais maintenant, on est à un match de passer à la prochaine ronde. On a appris du premier match. C'était notre premier match ensemble dans une compétition officielle. Donc oui, on a fait nos devoirs, puis on sait à quoi s'attendre mercredi prochain. Puis on sait surtout ce qu'on doit faire pour aller chercher le résultat et, comme j'ai dit, passer à la ronde suivante.
De l'extérieur, on avait l'impression, après la rencontre, que tout le monde avait le même constat. Tu aurais voulu pas encaisser les deux buts en fin de match, mais en même temps, si on avait offert à l'équipe, à Thierry, un scénario où tu fais 2-2 sur la route, tout le monde l'aurait pris. Est-ce que vous étiez dans cette même ligne de pensée-là?
100%. Tu m'avais dit avant le match, vous allez faire un 2-2 à l'étranger. Avec deux changements après 25 minutes de jeu. Comme j'ai dit, c'est notre premier match, donc physiquement, on n'était pas au même niveau que le Deportivo Saprissa. Non, moi je l'aurais signé, évidemment. Puis c'est sûr que bon, les deux buts contre font un peu mal à la fin, mais un 2-2, deux buts à l'extérieur, je pense que c'est très bon.
Mais justement, parle-nous de la fin de match. Mm-hmm. Quand tu es dans une situation comme celle-là, tu n'es pas chez toi, tu es moins en forme que l'adversaire, tu n'as plus de cartouches à utiliser si tu es l'entraîneur pour faire des changements, amener un peu de vie. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Pourquoi c'est à ce point-là difficile collectivement de dire, les gars, il faut s'éloigner de la surface de réparation, il faut remonter? Qu'est-ce qui se passe dans le groupe?
Je pense qu'en deuxième demi, Saprissa est sorti très, très fort. La foule aussi s'est rangée derrière eux. Donc oui, il y avait le 12e homme. Aussi, comme j'ai dit, physiquement, on était fatigué. Donc moins d'oxygène qui se rend à ton cerveau. Donc tu penses un peu moins clairement qu'en première demi. Oui, on voulait sortir de cette période difficile-là. Mais quand tu reçois des attaques après attaques de l'adversaire, c'est très difficile. Aussi, tu perds confiance quand tu touches un ballon.
C'est un gros bouillon.
Tu
es en train de me dire que tu es dans l'eau, tu prends un bouillon et tu as de la misère à savoir là, par où
exact.
T'en sortir.
Tu ne sais pas par où sortir. Tu touches un ballon à chaque 10 minutes. Quand tu le reçois, tu es en manque de confiance. Il y a plusieurs trucs qui jouent. Donc non, évidemment, je pense que la deuxième demi a été très difficile.
Et qu'est-ce que... Bon, là, vous êtes sorti quand même avec deux buts que vous avez marqués sur le terrain adverse. Est-ce que ça a changé quelque chose dans le groupe au niveau de l'unité? Parce que c'était un premier match avec Thierry Henry aussi. C'est une bonne première impression pour le groupe. Est-ce que ça a amené le groupe à un niveau différent pour aborder le prochain match?
Pour moi, ce match-là est maintenant la base de l'intensité qu'on doit amener à chaque match, les efforts qu'on doit amener les uns pour les autres. Donc oui, comme Olivier l'a dit, en deuxième demi, on a beaucoup concédé en termes d'attaque, mais on a été très solides les uns envers les autres. Puis le coach l'a mentionné après le match, cette intensité-là doit être le minimum pour nous. Donc, pour les matchs à venir, on ne peut pas descendre de ça. On va toujours revenir à ce match-là, puis regarder à quel point on était intense et solidaire envers nous. Puis maintenant, c'est le strict minimum pour chaque match qui va venir.
Il y a le groupe, puis après, ben, il y a chaque individu qui fait son propre travail d'analyse. Pour toi, évidemment, l'action défensive qui nous vient en tête, c'est ton tacle en fin de match, un gros sauvetage parce que ça aurait pu être catastrophique d'encaisser un troisième. Après, avec le ballon, il y a quelques ballons inhabituels qu'on n'est pas habitué de te voir perdre qui ont été égarés au milieu de terrain. Qu'est-ce que tu fais, toi, après un match? Est-ce que tu regardes la rencontre à nouveau? Est-ce que tu fais de la vidéo ou est-ce qu'au contraire, tu te dis, moi, je m'en tiens à ce qui a bien fonctionné, je m'accroche à ça comme une bouée, puis c'est là-dessus que je veux bâtir pour le reste?
Non, ce serait un peu naïf de ma part de justement regarder que les côtés positifs et d'oublier le négatif. Donc, le lendemain...
C'est bon pour le mental, par exemple.
Oui, c'est sûr, mais en même temps, c'est une réflexion que tu dois te faire toi-même pour justement corriger ce que tu as moins bien fait. Donc, le lendemain, on venait à Montréal, j'ai téléchargé le match, je l'ai regardé sur l'avion. Puis oui, il y a quelques ballons, surtout en deuxième demi, que j'aimerais revoir. Je sais que j'ai fait des bons côtés, des bonnes choses positives, mais tu restes toujours avec les trucs négatifs. En même temps, je me dis que c'était le premier match. Il y a un peu de rouille. Comme j'ai dit, il y a la fatigue. C'est pas des excuses. Mais non, évidemment, c'est les points négatifs qui restent sur lesquels je dois travailler encore.
Là, vous êtes à domicile, au Stade olympique, sur une surface qui ne fait pas toujours l'affaire des équipes adverses, mais elle est pour les deux équipes, cette surface. Quels avantages vous avez de jouer au Stade olympique? Et
ça a pris ça d'arriver là avec une surface comme ça? Est-ce qu'on ouvre les portes comme certains l'ont suggéré? Question qu'il fasse un peu froid dans le stade olympique. Quels avantages vous avez contre eux?
On devrait ouvrir les portes. Je ne connais pas les règlements, mais ça serait une bonne chose, évidemment. L'avantage, si je suis... Si je regarde ça de notre côté, on a plus d'entraînement sur cette surface-là. Je pense que le Saprissa arrivait dans les derniers jours, aujourd'hui ou hier. Donc oui, ils ont moins d'entraînement au stade olympique. Donc pour nous, oui, on a plus de temps d'adaptation, même si c'est très, très court. C'est honnêtement le seul avantage parce que après, comme j'ai dit, c'est 90 minutes, c'est entre quatre lignes, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais je pense que le gros avantage, ça va être la foule.
Il y a le terrain, mais il y a aussi le stade. La disposition du terrain dans un stade qui, évidemment, à la base, est un stade de baseball. Explique-nous un peu ce que ça fait pour un gars qui est au milieu du terrain, qui regarde à droite, qui regarde à gauche, devant, derrière. C'est les repères qui sont vraiment difficiles, si je ne me trompe pas, à trouver dans un stade comme ça.
Oui, puis c'est exactement ce qui se passe quand tu joues à l'étranger. Donc, moi, j'ai mes repères. Quand je joue au Stade Saputo, je sais que peut-être 5 mètres après la ligne de touche, il y a les fans qui sont là, d'un côté. Après, bon, c'est les bancs de l'autre côté. Mais c'est ce qui est dur quand tu joues dans un terrain à l'extérieur ou à l'étranger, de retrouver ces repères-là. Donc, oui, on a un peu ce désavantage-là ou cet inconvénient quand on va jouer au Stade olympique. Mais en même temps, la Saprissa va l'avoir aussi. Donc, ça, c'est pas vraiment un avantage qui va être pour nous ou pour eux. Donc non, ça, c'est assez difficile, oui, c'est vrai, c'est un bon point.
As-tu l'impression que cette année, vous allez passer beaucoup de temps à, c'est peut-être pas nécessairement négatif, vous ajuster à l'adversaire? Parce que Thierry Henry, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui. On va présenter l'entrevue dans l'avant-match mercredi. Et il semble être très ouvert à avoir un système pour surprendre l'autre équipe. C'est ce qui est arrivé la semaine passée. Est-ce que ça rend votre travail plus difficile ou est-ce qu'au contraire, tu te dis, bien, on se prépare à tous les scénarios, puis après ça... on y va avec ce qu'on nous lance?
Je pense qu'aujourd'hui, dans le football d'aujourd'hui, c'est super important d'analyser un peu tous les facteurs qui se présentent à toi. Donc oui, tu dois étudier l'équipe adverse. Je pense, en premier lieu, on doit avoir une identité, une philosophie de jeu. Mais encore là, ce serait naïf de ne pas regarder les autres puis de dire on fait qu'à notre tête, puis on joue d'une manière, puis ça va être comme ça toute l'année. L'effet de surprise est super important. Je pense que c'est ce qui est arrivé surtout en première demi contre le Saprissa. Maintenant, le Saprissa, c'est un peu à quoi s'attendre. On a peut-être des cartes cachées. On verra bien mercredi. Mais non, d'analyser l'adversaire puis de voir un peu où on peut les surprendre est une chose super importante.
Bien hâte à ce match mercredi. Bonne moi fin aussi de préparation, Samuel. Merci beaucoup. Et Olivier, évidemment, tu seras de l'équipe de diffusion. Donc, mercredi, dès 19h30, avec l'émission d'avant-match, dont l'entrevue avec Thierry Henry. Et on va vous retrouver, Olivier, ainsi que Vandril Lefebvre, tout de suite après le match. Et cette victoire de l'Impact, je le
victoire
souhaite.
Victoire ou un match nul. Hein?
Ou un match nul. Et c'est effectivement, il y a deux scénarios, 1-1 et 0-0. C'est dans la poche. Allez, on vous le souhaite. Merci Samuel.
Merci
on
à vous
se
parle
bientôt. Alors, merci d'avoir écouté la balado de l'Antichambre. Si vous voulez revoir les segments de l'émission d'aujourd'hui, je vous invite à vous rendre sur notre page Facebook. Et je vous invite également à nous suivre sur Facebook, sur Twitter, au @antichambre, et sur Instagram, @antichambre_RDS. À bientôt.